enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de le nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Moi, j'aime bien ces deux mots, mais Dieu. Vous savez, c'est un contraste le mot « mais ». C'est une conjonction qui veut dire « c'était comme ça avant, mais après il y avait une autre chose, il y avait une raison pour ces autres choses ». Vous savez, mes amis, ce que c'était avant, ce qui c'était notre vie avant, ce n'était pas beau. Ce n'était pas beau. Mon petit fils, Mathieu, quand il avait à peu près 4 ans, il avait une imagination grande comme ça. Et un jour, il a dit à son papa, mon fils, il a dit, « Papa, tu te souviens que quand j'étais plus jeune, quand j'étais pilote de voiture de course ?» Alors, quand tu as 4 ans, tu n'as pas une grande carrière derrière toi, normalement, comme pilote de course. Mais dans son imagination, et son papa, il dit, mon fils m'a dit, oui, de temps en temps, il dit, papa, tu te souviens de quand j'ai fait ça? Tu te souviens de quand j'ai fait ça? Et c'était des grands exploits qu'il avait fait déjà à 4 ans. Alors ça, avec les enfants, des fois l'imagination ça, et la réalité, ça vient ensemble. Je me souviens de mon fils Charles, quand il avait 3 ou 4 ou 5 ans. Il voyait des choses des fois que les autres ne voyaient pas. Alors ce n'était pas des visions, mais c'était bien un Charles. Il voyait des ours là dans l'obscurité devant la maison. Il voyait des serpents que l'autre ne voyait pas. Et il restait souvent avec une dame de notre église qui aimait beaucoup nos enfants. La sœur Davis, elle s'appelait. Et la sœur Davis, elle avait même un nom pour les histoires de mon fils Charles. Elle les appelait les histoires d'ours de Charles. Alors, Charles, il avait toujours des histoires d'ours, des choses qui... Mais vous savez, un enfant, imagination, c'est une chose. Mais je vous dis une chose, mes amis. Ce que nous étions avant, ce n'est pas l'imagination. C'était terrible. C'était terrible ce qui était dans notre cœur avant Jésus, que Jésus-Christ vienne là-dedans. Tu dis, David, c'était pas si mal que ça. Et le problème pour beaucoup de gens, ils ne voient pas comment ils sont en réalité. J'ai remarqué que nous, dans l'Église, nous avons souvent cette approche aux pécheurs. Oh, si votre vie, ça va mal, et si ça va pas de tout, j'étais comme ça, j'étais drogué, j'étais ceci. Beaucoup d'entre nous l'étions. Mais vous savez, pour la plupart, je dirais que les gens, même ceux qui ne sont pas convertis, ils ont le sentiment que ça va. Ils n'ont pas le sentiment d'être grands pécheurs. Ils n'ont pas le sentiment d'être pire que les autres. J'ai parlé avec une fille une fois, et elle était dans une secte, je crois. Et c'était au Luxembourg. Et là, à la place de Dharma au Luxembourg, elle m'est venue et a commencé de me parler. Alors je me dis, bon, si elle va m'évangéliser, moi, je vais l'évangéliser, elle. Et je dis, vous savez, la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Elle dit, moi je n'ai jamais péché. Elle dit, oh, vous êtes presque un ange. Hein? C'est vraiment exceptionnel, ça. Vous n'avez jamais péché. Mais vous savez, la plupart du monde, et ce n'est pas la première fois que j'entends ça au Luxembourg, une autre dame dit, moi je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Ce qu'elle voulait dire, c'est que je n'ai jamais volé dans une banque. Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Je n'ai jamais fait un adultère. Quelque chose de, entre guillemets, grand péché. Mais mes amis, selon Dieu, nous sommes tous pécheurs. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous regardons les gens autour de nous et nous disons, oh, moi je ne suis pas pire qu'eux. Mais quand vous serez au ciel, devant le trône de la grâce, vous ne serez pas comparé à votre voisin. J'ai un ami qui aime beaucoup les sports, il s'appelle Roger. Et de temps en temps, parce que moi aussi j'aime beaucoup les sports, et quand nous sommes ensemble, Roger et moi, nous parlons des sports. Vraiment, on peut passer des heures en parlant de sport. Ah, tu te souviens de celui-là, il y a 20 ans, ce qu'il a fait. Oui, c'était vraiment un grand match, ça, comme ça. Mais de temps en temps, le Seigneur me dit, David, attention. Il ne faut pas être vraiment trop dedans le sport parce que c'est moi le premier. Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, mais moi, regarde Roger, il est pire que moi. Il est pire que moi, Roger. Et il y a toujours quelqu'un qui est pire que vous. Pour certains, c'est difficile, mais normalement, il y a quelqu'un qui est pire que vous. Adolf Hitler, par exemple. Mais vous savez, mes amis, ce n'est pas ça. Devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Encore quand j'étais au Luxembourg, on avait un clochard qui venait dans la réunion assez souvent, Henri. Il venait parce qu'il faisait chaud en hiver et pour quelques heures, il pouvait échapper au froid et on lui donnait du café à boire. Alors, il venait assez souvent. Mais pour Henri, c'était facile de voir qu'Henri avait besoin du Seigneur parce qu'il se coupait presque jamais les cheveux. Il était sale comme tout, comme quelqu'un lui a donné des nouveaux vêtements. Au lieu d'enlever les vieux, il a mis les nouveaux sous les vieux. Et il continuait comme ça. Il arrivait un moment, à la fin même, qu'Henri, au lieu d'aller aux toilettes, il était trop paresseux, il faisait comme ça, et s'il était sur un banc, quelque chose comme ça, parce que l'alcool avait vraiment grillé son cerveau. Mais je me souviens d'une fois, Henri, avant que ça devienne tellement pire, on a essayé l'aider. On est allé à la ville et dit, est-ce que vous ne pouvez pas lui donner un logement? Ils m'ont dit, oui, on l'a fait plusieurs fois et il s'enivre, il y met le feu, il est sale comme tout. Alors, on ne peut pas l'aider comme ça, il est comme ça. Mais je me souviens d'une fois quand il est sorti de la prison. Alors, il était bien propre et sa pensée était claire parce que ça faisait quelques mois qu'il était en prison et on commençait de lui parler de l'évangile. Alors, Henri, toujours, quand il venait, il était ivre, comme ça, oui, c'est ça. Il m'a dit une fois, j'ai un bon caractère. J'ai dit, oui, à part le vol et le mensonge et des autres bêtises, vous avez un très bon caractère, mais je n'ai pas dit ça. Mais, vous savez, et là, j'ai dit, Henri, écoute, il faut que tu sois sauvé. Et j'ai vu, parce qu'il n'était pas sous l'influence d'alcool. Et ce message, pour la première fois, j'avais le sentiment que ça l'a touché. Il réfléchissait. Je lui ai donné le livre « La croix et le poignard ». Et il a lu cette nuit-là. Et le jour suivant, j'étais à l'église. Il est venu. Et il m'a dit, j'ai lu ton livre. Je crois qu'il a lu presque toute la nuit. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en as pensé? Il a dit, moi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que c'est vrai. Il ne peut pas croire. Combien de fois j'ai dit à Henri, Henri, écoute, un jour il était là dans le café-bar chrétien que nous avions. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et j'ai dit, Henri, mais est-ce que tu ne vois pas ce que tu fais à toi-même en buvant comme ça, en faisant comme ça? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu crois que je ne sais pas cela? Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, Henri était prisonnier pour lui dire, oui, arrêtez de boire. Il aurait bien aimé arrêter de boire. Il ne pouvait pas. Il était prisonnier. Et mes amis, vous savez, c'est bien facile pour nous qui sont maintenant des gens qui se lavent, qui sont bien propres. Je crois que vous êtes beaux et belles ce matin, bien en forme, vous brillez bien. C'est bien. On a mis un peu de parfum, alors on sent bon et tout ça. Et c'est bien de voir que nous sommes des gens de bien. Et puis, un clochard, bien sûr, un clochard a besoin de Jésus. Mais moi, vous savez, on avait une mamie qui venait au Seigneur au Luxembourg. Tata Fini, je crois que la pire que Tata Fini a jamais fait, elle m'a dit une fois, elle a volé 20 francs ou quelque chose de très, très petit comme ça. Alors, j'ai dit quelque chose de pire. Elle avait quand même une langue qui était assez comme ça et connaissait tout sur tout. Et des fois, c'était un peu comme ça. Alors, je dirais qu'elle avait des autres petites choses aussi ou des grandes choses parce que la langue, ça devient grande des fois. Mais vous savez quoi? Tata Fini, Il avait besoin d'être sauvé autant qu'Henri. Parce que devant Dieu, nous sommes tous des clochards. Henri, quand il venait de la réunion, c'était une église qu'on a commencé. Alors d'abord, c'était très petite, une petite salle là. Et en hiver, que vous fermez les portes et vous avez 40 personnes dans une toute petite place. Et le chauffage là, et oh là là, l'air, ça devenait vraiment mûr. Hein, c'est oh, parce qu'Henri, il était là. Et, il, comme tu dis, il prenait un bain quand il pleuvait, mais pas autrement. Et c'était lourd, on le sentait de loin. Et nous croyons, oh, devant Dieu, je ne suis pas si mal que ça. Je n'ai jamais fait ça. Regarde-lui. Seigneur, tu vois ce qu'il a fait. Moi. Mais devant Dieu, la Bible dit que toute notre justice, c'est comme des loques. C'est comme des vêtements usés, sales. Tout notre être devant Dieu. Il y a des gens qui viennent au Seigneur avec leur religion. Regarde, moi, je suis évangélique, je suis catholique, je suis protestant, je suis témoin de Jéhovah, je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis quoi que ce soit. Mes amis, tout cela devant le Seigneur, si c'est seulement de la religion, ça ne fait rien devant Dieu. Ce sont des loques, ce sont des vêtements sales qui sont mauvais devant Dieu. Nos actes de justice sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des clochards devant Dieu. Nous sommes des gens loin de Dieu et nous étions comme ça. Est-ce que vous vous souvenez comme Matthieu, de comment c'était avant, et c'était une chose qui existait avant Jésus? Peut-être que vous êtes venu au Seigneur. Moi, je suis venu au Seigneur quand j'avais 7 ans. Mais mes amis, avant de connaître Jésus, j'étais perdu. J'étais perdu, sans Christ, sans espoir, dans le monde, la Bible dit. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Beaucoup de gens, ils croient, comme j'ai dit, moi je suis catholique, je suis bien. Je suis d'une famille protestante, je suis bien. Non, mes amis, nous sommes tous pécheurs et ce n'est pas notre religion qui nous sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On est loin de Dieu, on est perdu, on est en chemin vers l'enfer. C'est horrible. On dit, bah, oh Dieu, mais il n'est pas comme ça. Il n'enverrait pas des gens en enfer. Écoute, les gens, ils sont verts en enfer eux-mêmes. Il fait en sorte qu'ils vont eux-mêmes en enfer parce que Dieu, il a tout fait pour les empêcher. Mais là, dans la façon de vivre têtu et égoïste, ils ont dit, Dieu, nous ne voulons pas de toi. Et Dieu dit, ok, voilà le chemin. Voilà où ça va. Ça va en enfer, le chemin sur lequel vous êtes. La Bible dit que dans ce temps-là, nous étions enfants de colère. Nous suivions le cours de ce monde. C'est-à-dire, ce que le monde pensait, nous le faisions. Et nous le voyons souvent. Parce que c'est vrai, le mode, c'est vraiment ce qui compte. Amen. C'est le mode pour les femmes, c'est couper les cheveux, les raser. Les femmes auront des cheveux rasés. Les hommes, nous sommes un peu la même chose. Ce qui est le mode, est le mode. Je me souviens de quand j'étais au lycée. Et chez nous, chaque année, la rentrée, comme ici, c'est un peu la même chose. Alors, il fallait acheter de nouveaux vêtements et tout ça. Alors, mon papa, il était, je ne veux pas dire qu'il était radin, mais il n'aimait pas dépenser l'argent. Alors, une année, c'était papa qui a décidé qu'il allait nous acheter des vêtements pour la rentrée. J'ai un conseil, vous les jeunes, ne laissez pas papa vous acheter quoi que ce soit. Si vous devez laisser quelqu'un le faire, laisse maman. Vous avez beaucoup plus de chance avec maman qu'avec papa. Non, maman. Et papa, il est allé. Alors, il m'a acheté des jeans. Il a trouvé vraiment une affaire. 3 paires pour le prix de 2. Alors, c'était bien. Mais je regardais. Oh là là. C'était des jeans de travail. Ils avaient même le petit truc là où vous mettez le marteau et comme ça. Je dis, oh là. Si je vais à l'école avec ça, je suis cuit. Mes amis vont rigoler et oh là là, j'étais abattu. J'ai dit, papa, s'il te plaît, tu changes les 3 contre 2 paires de jeans normales. Ok, s'il te plaît. Alors, papa n'était pas content, mais il n'a pas fait, il a fait. Oh, merci Seigneur. Et c'était la dernière fois qu'il a fait ça. Dieu merci. Maman était beaucoup mieux que papa. Mais pourquoi? Pourquoi ça change quelque chose s'il y a un petit truc pour les marteaux sur les jeans? Parce que ce n'est pas la mode. Et si vous n'êtes pas comme tous les autres, si vous n'êtes pas dans la moule, tout le monde se moque de toi. Un ami, un jeune m'a dit une fois, Si vous n'avez pas des rapports sexuels avant le mariage, les autres vous prennent pour un ringard. C'est la mode du monde. Et on ne suit pas la pensée, la mentalité du Seigneur, le monde. Il suit la mentalité, si vous voyez ici, le prince des airs, le diable. Les gens ici, ils ne savent même pas du monde, mais ils dansent à la musique du diable, ils suivent le cours du prince de ce monde, ils sont pris dans le mode de ce monde. Et écoute, les modes, pour moi, disons, si ce n'est pas péché, si on porte des vêtements qui sont modestes, et ça va. Si vous pouvez être modeste et aussi à la mode, moi, je ne vois pas de grands problèmes. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais la façon de penser de ce monde. Oui, maintenant, vous les jeunes, il faut que vous ayez des rapports sexuels avant le mariage. Parce que tout le monde le fait. Regarde les statistiques de CNRS, ou Centre National de Recherche. Ils disent que tel nombre de gens... Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes arrière ou quoi? Et les parents et tout. Mais mes amis, la Bible dit la façon de penser de ce monde, ils suivent le diable, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Il a dit, nous étions à cause de cela, à cause de notre façon de vivre. Si nous étions des bons ou des mauvais, à cause de notre façon de vivre, nous étions objets de la colère de Dieu. Perdus, sans espoir, sans Christ dans le monde. Oh là là. Alors si j'arrête le message maintenant, et dit, voilà, on prie et on va à la maison, vous allez repartir assez triste, n'est-ce pas? Parce que jusque maintenant, l'histoire n'est pas très gaie. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. Je crois que c'est le mot le plus beau dans toute la Bible. Moi, j'étais comme ça. Mais Dieu, mais Dieu. Normalement, si on a des ennemis, on est content quand ils tombent, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous parle mal et quelque chose leur arrive, oui, oui, le Seigneur il prend soin des siens. Mais nous étions ennemis de Dieu. Et il nous a quand même aimés. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Je dis honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Sauf il y a quelque chose en Dieu. Il y a quelque chose dans sa nature que même ceux qui sont rebelles, que ceux qui sont contre lui, que ceux qui vivent d'une manière tout à fait contraire à ce qu'il dit, il les aime toujours. Et je crois que peut-être c'est la révélation ici. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Vous savez, il y a des hommes ici à Paris, ils sont tellement riches en argent que quand ils sont assis, c'est comme ça, parce que le porte-monnaie est tellement plein d'argent qu'il ne peut pas s'asseoir normalement. C'est terrible ça, n'est-ce pas? On aimerait bien avoir ce problème. Il y a des gens qui sont riches en Mercedes, il y a des gens qui sont riches en terre, en maison. Mais Dieu est riche en miséricorde. Quelqu'un a dit... Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. Selon cette personne, la grâce, c'est quand Dieu nous pardonne, même si nous ne le méritons pas. Mais il a dit, la miséricorde, c'est plus comme ça. Il a dit, tu vois ton enfant, là, il est vraiment malade. Il a une fièvre, il a tout son corps, ça lui fait mal, il a des vomissements, et il pleniche, et il est là. Et toi, le parent, tu l'aimes tellement que tu le prends dans tes bras et tu le serres contre lui. Et si tu pouvais, tu feras n'importe quoi pour enlever la douleur de cet enfant. Ça, c'est la miséricorde. La Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il y a quelque chose en Dieu qui est au-delà de la pensée humaine. C'est son amour. C'est parce que nous disons, nous nous voyons, nous savons comment nous sommes. Et nous disons, Seigneur, je ne sais pas comment tu peux m'aimer. Mais il y a quelque chose dans la nature de Dieu lui-même, son amour, sa compassion, sa grâce. Bien sûr, il faut craindre Dieu. Bien sûr, il y a ce côté de Dieu qui punit le péché. Mais est-ce qu'il y a, quand Dieu s'est révélé à Moïse, et Moïse, il a crié à Dieu, « Dieu, montre-moi ta gloire !» Et quelle est la première révélation de Dieu? En Exode 34 et 6, il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Ça, c'est ce que Dieu est. Premièrement, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et bien sûr, il punit le péché. Mais mes amis, la première partie du caractère de Dieu, c'est sa bonté, sa miséricorde, son amour pour nous. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous étions si beaux, ce n'était pas parce que nous étions si parfaits, ce n'était pas parce que nous sommes tombés dans l'église qui avait toute la raison, c'est par cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Calvaire ce jour-là quand il a brisé la puissance de l'ennemi. Dieu, qui est riche en miséricorde, il nous voyait dans notre péché. Il nous voyait loin de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de nous détruire comme nous le méritions, il a envoyé son propre fils pour mourir à la croix de Calvaire. Oh, mes amis, imaginez ce qui s'est passé à la croix de Calvaire parce que Jésus est mort. Quand le frère René il parlait ce matin de comment les équipes y sont, les fans, plutôt supporters, ils sont comme l'équipe, ils marquent un but. Ils explosent de joie. Est-ce que vous pouvez imaginer le jour, le troisième jour, quand le Saint-Esprit est venu et le corps de Jésus-Christ est revenu dans son corps humain, là, Dieu l'a ressuscité miraculeusement. Moi, je crois que tout le ciel éclatait de joie, tout le ciel criait sa louange, tout le ciel disait « Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur ». Oh, quelle célébration qu'il y a au ciel! Mais mes amis, nous les chrétiens, tellement souvent, nous écoutons l'histoire de la croix et nous disons, « Oh, c'est bien. Amen, frère. » Est-ce que vous savez que nous aussi, nous sommes impliqués dans cette histoire de la mort et résurrection de Jésus? Est-ce que vous savez que nous aussi, à cause de ce qui s'est passé avec Jésus, nous aussi, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Plus que cela, nous pouvons être déliés de la puissance de nos péchés. Plus que cela, nous sommes ressuscités spirituellement avec le Christ. Plus que cela, nous régnons avec le Christ. Plus que cela, nous sommes vainqueurs du péché parce que nous sommes en Christ. Plus que cela, nous sommes enfants de roi, enfants du Père, du Fils, du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tant de choses que nous avons à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Si les anges ont éclaté de joie à cause de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, combien nous, qui sommes beaucoup plus impliqués que les anges, parce que c'était nous qui étions perdus par les anges au ciel, c'était nous qui étions perdus, c'était nous qui étions prisonniers du diable, c'était nous qui allions dans les chaînes et nous ne savons même pas. Mais ce jour-là, quand Jésus est ressuscité des morts, il a vaincu la puissance de la mort. Mes amis, il a brisé les chaînes, il nous a libérés. Il a dit, nous qui étions morts spirituellement par nos offenses, nous, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Voilà pourquoi le baptême dans l'eau est important. Il est important que vous prêchiez ce message de Jésus. J'étais mort dans mes péchés. Quand j'étais plongé dans l'eau, c'est l'image de ça. J'étais mort dans mes péchés. Si on avait un cadavre ici ce matin, on pourrait lui prêcher l'évangile. Ça ne fait rien, n'est-ce pas? Mais sur le cadavre, vous avez vraiment besoin d'être sauvé. Il va dire... Vous pouvez lui dire, « Ah, monsieur, vous savez, il y a 10 jours de cela, on a tiré votre nom, vous avez gagné le loto national, 5 millions d'euros, n'êtes-vous pas content ?» Il va dire, « Pourquoi ? il est mort. Et nous, nous étions morts spirituellement dans nos péchés. Mais un jour, tout comme la puissance de Dieu est entrée dans le Seigneur Jésus-Christ, là où il était, dans le tombeau, il est ressuscité par la puissance de son Père. Nous aussi, spirituellement, la puissance de Christ est entrée en nous. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Christ Jésus. Ce qui a été n'existe plus. Ce cadavre spirituellement qui essayait de comprendre les choses de Dieu, mais qui ne pouvait pas. Toute la réalité de Dieu est là. Et notre homme spirituel dit, ils sont fous ces gens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Dieu pas. Je suis en train de lire un livre maintenant sur la création. Ben, c'est un livre de science. Mais quand je vois, je dis, Seigneur, c'est incroyable. Comment les gens peuvent manquer ta main dans tout ça? Parce que de dire, oui, c'est venu comme ça, c'est un hasard, bah, vous savez, on est là depuis X milliards d'années, et bah, c'est l'hasard que... Non, c'est pas l'hasard. Moi, je sais qu'il a fait. Et c'est évident pour celui qui a ses yeux ouverts. Mais les cadavres? Je crois pas que c'est Dieu. On va écrire des livres qui s'appellent le délusion de Dieu. Et vraiment dans le monde anglophone maintenant, un livre qui fait beaucoup parler, un scientifique, il a dit, parce que lui, il veut que vraiment la religion soit effacée de la terre. Il croit que, et l'autre, il dit, oui, c'est le lavage de cerveau, tout ça. Vous croyez que ces scientifiques-là, ils sont pas un peu préjugés d'un côté ou de l'autre? Alors quand ils regardent les faits, ils vont pas voir Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des cadavres. Spirituellement, ils sont pas vivants. Mais le jour où le Saint-Esprit vient et ce cadavre, dans sa condition, commence à entendre car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce cadavre, ça commence à bouger un peu. Il a dit, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et ce cadavre dit, moi j'aimerais bien ça. Et ce cadavre répond à l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ et tout à coup, il ressuscite. La Bible dit, si un homme ou une femme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvel. Le cadavre se lève, amen, il est vivant. Et c'est ça que Jésus a fait. Je crois que le problème, c'est beaucoup de chrétiens, ils ne réalisent pas ce que Jésus a fait. Ils sont comme des gens qui sont enchaînés. Et Dieu leur dit, mais allez là-bas. Il dit, oui, je vais le faire. Ouh. Mais il y a cette chaîne. Laisse-moi vous aider. Non, je vais le faire. Mais j'ai la clé. Mais non, je vais le faire. Attends, laisse-moi. Parce que si moi, je m'en sors, je serai bien. Et on voit des chrétiens toujours comme ça. Et Jésus dit, moi, j'ai la clé. Tu vas me laisser ouvrir cette chaîne. Tu peux faire ma volonté. Tu vois, quantité de gens essaient de faire la volonté de Dieu, de leur propre force. Mais ils sont toujours enchaînés par le diable. Vous ne pouvez pas. Un homme, il m'a dit une fois, un jeune homme, il m'a dit, oh, il faut que je me change. Il faut que je change de la vie. Et j'ai dit, écoute, vous ne pouvez pas toute seule. Parce qu'ils sont enchaînés, ils sont prisonniers de ce monde. Mais mes amis, c'est Jésus qui nous libère de nos péchés. C'est Jésus qui fait en sorte que nous soyons capables de vivre cette vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas victorieux, ils sont toujours déprimés. Quand j'étais adolescent, c'était, pour moi, c'était toujours cette question. Suis-je sauvé, suis-je pas sauvé? Suis-je sauvé, suis-je pas sauvé? Je croyais que si vous étiez sauvé, vous aurez toujours un certain sentiment. Tu sens ça? Oui, tu es sauvé alors. Est-ce que le salut, c'est un sentiment? Je me souviens de quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme et notre pasteur, il nous connaissait les deux et il aimait bien taquiner. Il dit, David, quand tu la tiens par la main, est-ce que tu sens la chair de poule? Bon. Elle était là, je devais dire oui. Mais je dois avouer que ça fait 36 ans maintenant qu'on est mariés et il y avait des moments que je ne sentais pas la chair de poule. je voulais l'étrangler, hein. Non, non, c'est pas vrai, jamais. C'est elle qui voulait m'étrangler. Parce que je suis beaucoup plus agaçante d'elle, ça j'avoue. Mais j'étais marié quand même. Je sais pas, je peux dire, oh, tu sais, ce matin, je ne me sens pas marié, je vais sortir avec celle-là. Oh, 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 oh. Il y a quelqu'un, quelqu'un qui va me rappeler que je suis marié. Et heureusement, amen. Oh, je ne sais pas, je crois que l'amour est parti. L'amour est parti. Alors, va le chercher, idiote. Amen. On a des idées tellement stupides qui sont formées par nos chants populaires. L'amour, l'amour, l'amour. Ça, c'est l'amour. Oh, l'amour, ça veut dire que vous ne devez jamais dire pardonne-moi, pardonnez-moi. Ça, c'est stupide. Mais ça, c'est un film. C'est l'évangile selon les films, l'évangile selon la musique. J'ai entendu les Beatles quand j'étais jeune, ils chantaient de l'amour. Mais l'amour ne marche pas parce que c'est sentimental et pas plus profondément que ça. Moi, je sais qu'est-ce que c'est l'amour. Je voyais cette maman qui est mariée avec moi, qui quittait ses trois enfants parce qu'elle aimait tellement le Seigneur Jésus-Christ et elle m'aimait tellement et elle était tellement engagée pour le Seigneur Jésus-Christ et engagée envers moi que elle, quand je dis le Seigneur nous appelle d'aller sur un autre continent, elle dit bon, on va y aller. Ça c'est l'amour. Est-ce qu'elle avait des bons sentiments? Oh là là, quelle bataille! Sa mère était âgée et son papa, et il ne voulait pas qu'elle parte parce que c'était la petite. Elle avait d'autres frères et sœurs pour s'en occuper, mais c'était dur. Mais l'amour, c'est à la fin. Et mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Le salut, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est même plus qu'une émotion. Parce que des fois, comme j'ai dit l'autre jour, je me réveille et je n'ai pas le sentiment tellement d'être sauvé. Mais vous savez, pourquoi je suis sauvé? Je ne suis pas sauvé parce que j'ai un certain sentiment aujourd'hui. Je suis sauvé à cause de ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire pour moi. Il est ressuscité. J'ai mis ma confiance en lui et je le sers. Et si les sentiments sont là, comme ils sont ce matin, wouh, gloire à Dieu! Mais s'ils ne sont pas là, tant pis! Je sers le Seigneur quand même. Je suis sauvé quand même. Comme je vous ai dit quand j'étais ado, c'était toujours cette question, suis-je sauvé, suis-je pas sauvé, suis-je sauvé, suis-je pas sauvé. Et même le péché, oh là là, parce qu'on sait tout que ça ne plaît pas au Seigneur. Mais si on arrive de ne pas le faire avec un acte extérieur, qu'est-ce qui se passe dans la pensée, dans l'esprit? Oh, j'avais une mauvaise pensée, pardonne-moi Seigneur, est-ce que j'ai perdu le sang? Oh Seigneur, je ne sais pas. Ou bien on lutte, ou même on tombe des fois, on dit, aïe, 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 est-ce que le Seigneur me pardonnera? Si, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, et écoute, si vous lisez bien, en Jean 1, 8, 9, il écrit aux chrétiens, pas aux pécheurs ici. Bon, ça marche pour les pécheurs aussi, pour les inconvertis, je veux dire. Mais il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste, vous pardonnez vos péchés, vous purifiez de toute injustice. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces paroles afin que vous ne péchiez pas. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Père. C'est qui? Jésus-Christ le juste. Alors ce n'est pas pour vous donner carte blanche pour le péché, parce que le péché, ça cause beaucoup de dégâts. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai appris ceci. Quand vous mettez votre confiance en Jésus, vous allez pécher beaucoup moins que celui qui essaie de le faire de ses propres forces. Beaucoup de chrétiens, vous savez, ils ont des drôles de yeux, des yeux, quand j'ai parlé l'autre jour, parce qu'ils regardent toujours ce... Oh, je vois, oh, non, 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 oh, attends, oh, ah, non, oh, c'est pas, pardon, pas, pardon. Et puis, ils se regardent, oh, non, pas, pardon. Oui, il faut se regarder de temps en temps. Mais si on ne fait que cela, vous savez qu'est-ce qui se passe? En David, il n'y a pas de salut. En toi, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est en lui. Le salut, c'est en lui. Et quand... Vous savez, le diable est toujours là. Il dit, ah oui, mais vous avez une mauvaise pensée. Vous croyez que vous allez au ciel? Non. Il nous condamne. Il nous condamne. Le Saint-Esprit, il est tout autre. Il nous convainc. Il nous convainc. Le Saint-Esprit dit, David, tu sais, ce que tu as dit, non, c'est pas ça. Ou bien David, ah. Et quand le Saint-Esprit nous parle, c'est pour nous pardonner, pour nous délivrer de cela. Et pour cela, il ne faut pas dire, « Ah, je vais essayer plus fort. » Non, non, non. Il faut se tourner vers le Seigneur et dire, « Seigneur, en moi, il n'y a rien de bon. Je n'ai pas la force. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, fortifie-moi. Je peux vaincre ce péché parce que je suis sur le trône avec toi. Je règne sur cela. Moi, je peux marcher en victoire. Je ne suis pas obligé de pécher comme je l'étais parce que j'étais enchaîné par le diable. Mais maintenant, je suis libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en Christ et le péché n'aura plus de dominion sur moi. » Et celui-là qui regarde vers le Seigneur de tout son cœur, il va pécher moins que celui qui est toujours en train de regarder son nombril pour voir s'il n'y a pas une petite chose ceci, cela. S'il y a quelque chose, mes amis, la parole et l'esprit va vous montrer. Et quand il vous montre ça, tout de suite, confessez-le et dites, « Seigneur, j'ai besoin de la force pour vaincre ça. Pardonne-moi, mais va au-delà. Seigneur, pardonne-moi, mais délivre-moi. » Comme tu l'as déjà délivré au début. Et c'est ça la victoire. Mais Dieu, Seigneur, je te loue de toutes mes forces, de tout ce que je suis. Seigneur Jésus, merci pour la nouvelle naissance. Merci que mon nom est écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas moi qui l'a fait par mes grands exploits. C'est toi qui l'as fait dans ton sang. Pas ton sang à la croix de Calvaire. Oh Jésus, je te loue de tout ce que je suis.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.